France Musique. Les grands entretiens, Judith Chen.
Je suis Jean-Jacques Antorov, donc je suis né à Cannes en 1945 et je suis musicien, c'est-à-dire j'ai été violoniste, je continue un petit peu et je suis chef d'orchestre.
Jean-Jacques Cantoroff, on a bien entendu vos récits de l'enfance, de l'histoire de la famille, de toute votre formation, et puis arrive le moment où, ça y est, on a passé plein de concours, on a été lauréat, on a éprouvé aussi sa manière de monter des programmes, de vivre une vie d'artiste, commencer à jouer ça et là, et puis à un moment, on arrête les concours, et puis c'est véritablement la carrière qui démarre. C'est une carrière qui démarre à la fois en soliste... Et en musique,
et en musique de
chambre.
Alors, pour en terminer avec les concours internationaux, il y avait quand même un côté sportif. Hein. Je n'ai pas abordé, c'est simplement parce que j'étais relativement sportif. Enfin, je faisais un peu de compétition aussi sportive. J'aimais l'athlétisme. Je m'étais fait payer des souliers à grappins pour le saut en hauteur, pour la course de vitesse. Bon, ça, j'aimais ça. C'est vrai qu'il y avait un côté sportif, l'envie de gagner. Donc, ça, c'est quand même, ça fait partie hein, du personnage. On ne peut pas y échapper. Donc, ce n'est pas le côté le plus reluisant, mais ça existe. Alors après, j'ai commencé une carrière un petit peu avant de rencontrer Jacques et Philippe, parce que après le concours de Montréal,
Jacques Rouvier et Philippe Huller,
après le concours de Montréal, donc on m'a réinvité à jouer avec Albert Lotto, qui était le premier gagnant, en même temps que Pentier, ils avaient partagé le premier prix au concours de Montréal en 65. Et donc en 66, je passe le concours de Montréal, et donc en 67, j'y retourne avec Lotto, on nous fait jouer ensemble, je trouvais ça absolument merveilleux, et on a été auditionné pour deux impresarios, l'un, je ne me souviens plus qui c'était, mais bon, les deux, ça marche très bien, le second, c'était Young Concert Artist. Et Young Concert Artist, à l'époque, YCA, dirigé par Susan Wadsworth, en était à ses débuts. Il y avait Murray Peraya, Nobuko Imai, il y avait donc cette pianiste dont je vous ai parlé, Nerine Barrett, il y avait du très très beau monde. Voilà, tout de suite, alors j'ai passé un concours qui n'était pas un concours, parce que c'était une audition, chez Charles Wadsworth, donc le mari de Susan. Je me souviens, j'arrive avec Albert, on joue un peu. Puis à un moment, il y a Charles qui dit « Je peux jouer avec toi ?» Alors il pousse Albert dans un coin. Et puis on a joué, bon, improvisé, bon, une sonate de Debussy, une Beethoven, enfin, on lisait de la musique. Et ils m'ont pris, et j'ai commencé avec eux. Mais c'était vraiment les premières tournées, véritables tournées, ce qui était merveilleux, parce que les tournées, ça, c'était quand même 10 concerts, 12 concerts, 15 concerts d'affilée en un mois. Donc, je venais aux États-Unis, je faisais un paquet de petits concerts, mais ça me nourrissait, et puis surtout, ça me faisait jouer. Donc, la carrière était amorcée. Et quand j'ai rencontré Jacques, entre cette carrière amorcée et tous les concerts de jeunesse musicale, parce qu'on a fait quelques tournées, et c'était là aussi, c'était bon quelques 25 concerts en 30 jours, hein, donc c'était toujours dans ce rythme de vie. En plus, c'était une drôlerie, parce qu'on s'entendait comme larrons en foire, donc on était très différents. Donc il y avait l'Alzaco protestant, il y avait Jacques le catholique, et puis moi le rudéo, comme il m'appelait. Donc c'était très drôle, on s'entendait merveilleusement, et on a passé certainement les meilleures années de musique de chambre de ma vie.
c'est aussi le début des voyages, Jean-Jacques Cantoroff, quand on commence à être comme ça en tournée. Vous nous avez dit que vous étiez marié.
Oui.
C'est quelque chose de difficile que, aussi d'être tout le temps sur les routes et en même temps de construire sa vie. Vous en avez souffert?
Souffert, je ne dirais pas, parce que c'était un prolongement de la vie d'avant. Ma femme me suivait souvent. On en a fait des voyages assez exotiques, que ce soit en Turquie, que ce soit... Donc, il y avait, parce qu'à l'époque, il y avait quand même pas mal de concerts organisés par l'Association française d'action artistique. Donc, il y avait des échanges. Et les directeurs des instituts culturels français nous invitaient. Et donc, c'est à cette époque-là, on apprenait notre métier et c'était merveilleux. Et puis, il y avait parallèlement à ça... moi, je vivais aussi Bernard Thomas, l'orchestre de chambre Bernard Thomas, avec lequel nous avons fait aussi de nombreuses tournées d'été, avec tous les soirs un concert et tous les soirs des programmes très sympathiques. Donc, il y avait beaucoup de choses qui produisaient un grand nombre de concerts, de prestations pas bien payées, mais nous faisaient vivre. Et on s'était installé à Paris avec ma fille et ma femme. Et à partir de là, bon, c'était facile de rayonner. Donc, effectivement, ça a été un départ assez tonitruant au point de vue quantité de concerts.
Vous avez évoqué l'aspect chorégraphique et ça m'intéresse de savoir si jamais ça a une importance pour vous ou pas, ce geste.
Énorme. On est sur une scène pour être vu aussi. C'est du théâtre vécu. L'avantage, je dirais, c'est que c'est plus facile de le faire avec des notes que de faire avec un texte. Un texte est plus limité, même si on peut lui donner des tas d'interprétations. Mais les gens comprennent ces interprétations parce qu'ils comprennent le texte. La musique échappe encore un petit peu. Il y a une zone de mystère où les harmonies, les gens ne les comprennent pas parce qu'ils ne sont pas des compositeurs. Pour la plupart, les mélomanes qui viennent écouter ne savent pas comment c'est fabriqué. Donc, ils ne s'attendent pas aux choses ou même aux surprises. Ils les vivent, voilà, sans savoir pourquoi. Donc la musique a cet aspect mystérieux et facile avec lequel on peut jouer. Mais la chorégraphie est essentielle. Alors, comme chef d'orchestre, on la connaît. Bien sûr, il y a même des chefs d'orchestre qui ne sont que des chorégraphes. Parce que quand ils commencent leur carrière immédiatement avec Philharmonie de Berlin, Vienne, etc., ils n'ont rien à faire puisque l'orchestre joue tout seul. Et que les chefs qui veulent imprimer à ces phalanges leur autorité, leur vision, se font massacrer. En général, souvenir de même d'Arnoncourt, qui n'était pas vraiment un chef d'orchestre, mais qui était un musicien tout à fait exceptionnel, peut-être un des plus exceptionnels du siècle passé. Donc Arnoncourt, à Berlin, commence une répétition, et puis il dit tout de suite, écoutez, voilà, alors de la première mesure, alors monsieur le cor, ici vous allez mettre un point sur cette note, puis ici vous faites une virgule, et puis là je voudrais que vous allongiez la... Et le type se lève et regarde de son papier en disant, d'air Arnoncourt, est-ce que vous pourriez reprendre, s'il vous plaît? Mais d'une façon très, très provocatrice, en disant, vous nous emmerdez, en quelque sorte. Arnoncourt a posé sa baguette et il est parti. Mais il a fallu aller rechercher, donc et je me souviens d'Amado en train de pleurer en disant, mais demandant à Philharmonie de Vienne, je crois, de faire quelque chose, et il jouait admirablement, mais il ne faisait pas ce qu'il voulait. Et ne pouvant pas obtenir quelque chose de différent, parce que ce sont des orchestres qui sont peut-être un tout petit peu moins aujourd'hui, commencent à s'assouplir. Mais ça a été le cas. Pas question de changer quoi que ce soit, puisqu'on sait comment il faut faire. On joue, on a une tradition, puis les autres, bon, bah, c'est... Qu'est-ce que c'est que ce chef? Qu'est-ce que c'est que ce soliste? Donc, voilà.
Et la chorégraphie du violoniste?
Alors, la chorégraphie du violoniste, ben, c'est aussi la magie de la présence sur une scène. La façon de rentrer sur une scène, la façon de saluer. Mais après, il y a la présence, il y a le geste, de toute façon, va faire l'interprétation comme l'interprétation va faire le geste. Il y a des gens, quelques musiciens qui sont arrivés, au détriment du geste, à faire passer une émotion. Heifetz faisait partie de cela. Mais c'était tellement... un choc entre une image imperturbable, un physique, rien ne bougeait. Karajan aussi, au début, dans sa gestique, était aussi comme ça très réservé, avec des jambes qui ne bougeaient pas. Il n'y avait aucun mouvement du bas du tronc. C'était figé complètement. Donc, créant une émotion par un choc entre ce qu'on voit et ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'était... c'est une fièvre, c'était une incandescence extraordinaire, un son, une présence. Donc, on s'attend à quelqu'un, à voir quelqu'un qui va lutter, qui va défoncer les portes, qui va nous ouvrir un monde. Pas du tout. Justement, il a joué sur l'opposition. Mais c'est aussi un jeu. Et puis, on voit un Kremer, par exemple, qui fait des génuflexions, qui se balance, ou Gitlis, extraordinaire. Gitlis, la présence sur scène de Gitlis, c'est phénoménal. Donc, voilà, ça ajoute quelque chose.
France Musique, les grands entretiens de Jean-Jacques Kantorov.
Vous avez toujours été à l'aise sur une scène, vous, Jean-Jacques Kantorov?
Toujours été à l'aise parce que je n'ai jamais eu le trac. J'ai eu quelques inquiétudes, parce que ça m'est arrivé de donner un concert pas préparé. Pas préparé, j'entends, dans le répertoire habituel, il me fallait une journée pour monter n'importe quel programme. Donc ça, c'était peu de préparation, mais c'était quand même une préparation. Mais sachant que, pour certaines pièces, je ne les connaissais pas. Et jouer par cœur une pièce quand on ne la connaît pas, c'est prendre une petite notion de risque. Alors certaines fois, je dois dire que j'ai serré les fesses.
Mais donc, sinon, vous avez toujours été très à l'aise.
Très à l'aise, j'adore monter sur une scène. Non, pour moi, c'est un bonheur d'échanger. Et puis on joue différemment sur une scène. Pas simplement parce qu'on a envie de séduire, mais parce qu'il y a un renvoi du public, il y a un autre rythme de vie, de préhension. Donc en fait, on joue tout à fait différent de ce qu'on travaille chez soi. On se laisse porter. Et c'est le moment où on découvre qu'il y a d'autres aspects à une œuvre. Et je comprends Richter qui se mettait à travailler après ses concerts.
Soliste, violoniste, deux choses se passent. Si on oublie la musique de chambre un instant, qu'on parle vraiment du soliste, il y a le récital, où là on se confronte au répertoire pour violon seul, et puis également le concerto, où on se confronte à des chefs aussi. Comment est-ce que vous pourriez nous raconter cette période-là? Peut-être d'abord aussi le rapport que vous avez à ce répertoire pour violon seul.
Alors, répertoire pour violon seul, j'ai eu assez tôt, je me souviens même d'un mois, tous les week-ends, je rentrais à Paris, je faisais l'intégrale des sonates et partitas à la conciergerie. C'était en alternance, donc trois sonates, trois sonates, trois sonates, trois sonates, et la dernière fois, les six sonates dans la même soirée. Donc c'était assez amusant. Donc j'avais vraiment un planning, bon, c'était pas mal.
Ces sonates et partitas, quel voyage vous faites quand vous les jouez? Est-ce que quand vous regardez cette œuvre aujourd'hui et que vous vous souvenez des premières fois où vous les avez traversées, qu'est-ce qui change? On dit qu'évidemment, c'est aussi la Bible du violoniste. Comment vous pourriez nous parler de cette œuvre en particulier?
Pour moi, ça a changé énormément dans le sens où j'ai commencé à jouer ces sonates et partitas à l'époque où Schering les enregistrait. C'est la première fois qu'on entendait ces sonates avec une distance professorale. Tout y était. C'était un Schering jouait un violon extraordinaire. Sa première version, j'ai le souvenir, j'avais l'impression qu'il jouait de quatre violons à la fois. C'est-à-dire qu'on ne comprenait pas comment il arrivait à faire sortir tous ces accords sans avoir à, en quelque sorte, à transpirer. On n'entendait aucune couture, c'était une sorte de perfection. C'était pour Vox, cette première série. Et c'était phénoménal parce que on retrouvait la musique pure. Auparavant, il y avait eu Heifetz, il y avait Mitnuhin, il y avait, bon, mais qui était un peu la couverture. Ah oui, il jouait ça. Alors, j'ai réécouté longtemps après, enfin même quand j'ai commencé à enregistrer les sonates et partitas, j'ai réécouté Heifetz, qui finalement avait une approche presque plus baroqueuse, malgré le son qui était complètement dur et qui avait rien à voir avec un son baroque, mais dans les tempi, dans la façon de jouer la pièce, que celle de Schering. Mais Schering avait imposé un modèle. Et tous les violonistes de cette époque jouaient, on s'essayait de se rapprocher de Schering, parce que c'était une sorte de monolithe de perfection. Et j'ai connu Schering, et donc il y avait ce besoin d'être absolument impeccable. C'était le chevalier sans peur et sans reproche, hein, vraiment, du violon. C'était un homme extrêmement sensible et chaleureux, mais il se voulait inattaquable. Et ça a formaté une façon de jouer dans le monde. Mm-hmm. C'était la référence.
C'était voilà. Le bien joué Bach.
C'était le bien joué Bach. J'ai vécu le baroque, les débuts du baroque, parce que j'étais en plus installé à cette époque-là en Hollande. Donc les Bilsma et compagnie, c'était des amis, je les voyais, et puis ça transpirait. Donc c'était les premières classes de violon baroque qui n'existaient pas auparavant.
Et ça, c'est
donc
quelque chose que vous avez pratiqué aussi?
Alors je ne l'ai pas pratiqué, mais ça transpirait.
Ça vous a inspiré?
Ça m'a inspiré parce que c'était une école de liberté.
Et, de fantaisie.
De fantaisie. Alors, les premiers baroqueux, je les ai connus, c'est Bezina à Nice, avec Bua, avec Banda. C'était une bande d'Ostrogoths qui était vraiment à l'opposé de tout. C'était des babacools de la musique. D'ailleurs, la tenue, c'était insensé. Le cheveu long, dégueulasse, les tenues invraisemblables. Les premiers concerts qui se donnaient, je me souviens, en face de l'opéra de Nice, il y avait des sous-sols, ils avaient trouvé une sorte de cave. Et alors, ils voulaient restituer un peu l'ambiance de l'époque de Bach. Donc, il y avait du vin chaud à gogo. Et puis, ils venaient, ils jouaient du baroque. Mais le baroque a été aux mains. Alors, je dis pas pour Bezina parce qu'il a transformé son tir, mais à l'époque, il n'était pas considéré comme un violoniste de premier talent. Il avait des difficultés et il a trouvé dans le baroque, comme beaucoup, une façon de trouver un autre style, de rayonner, sans avoir à prouver qu'il pouvait jouer des caprices de Paganini. Donc voilà, c'était complètement autre chose. Et ça a été cette liberté, cette ouverture de tous les carcans. Une fugue de Bach, pour moi, c'est la première fugue. Bon, ben, c'est de la danse. Il n'y avait pas de pourquoi. Voilà. Donc c'est pour moi, ça, c'était pas de la musique. Et j'ai enregistré plus tard les sonates et partitas, mais cette fois-ci dans la version Schumann, avec donc accompagnement de piano. Et le résultat est beaucoup plus baroqueux que, alors qu'il devait être plus romantique, ça doit être le contraire, en fait. Parce que je pouvais pas m'empêcher de jouer Bach comme je le sentais, c'est-à-dire oublier complètement le style, entre guillemets, pour retrouver la joie de la musique, tout simplement.
Quelle place pour le doute ?
Il n'y a pas de doute quand on est convaincu. C'est logique de dire ça, mais simplement à partir du moment où on vit une chose et on est là pour la montrer, puisqu'on est payé pour cela. Et en plus de ça, c'est une joie. Donc en fait, on fait une addition, on est ce qu'on est. Les gens prennent ou ne prennent pas. Donc il n'y a pas à se poser de questions sur le pourquoi du comment et s'il faut ou s'il ne faut pas. On est là pour ça. On est là pour poser des jalons ou créer des interrogations. Fascinant, qu'on soit rejeté ou qu'on soit accepté, c'est pas là le problème. Le problème, c'est d'être spontanément vivant et de prouver qu'on l'est.
Vous avez dit que votre regard avait complètement changé sur Bach avec les années, c'est-à-dire qu'il est passé de cette forme de liberté, de quelque chose comme ça, de très libre, d'inspiré par aussi ce renouveau baroque, même si vous n'êtes pas avec de la corde en boyau, à quoi alors ?
Alors, un retour au romantisme. Quelque part, les baroqueux ont un peu aseptisé cette musique, on lui a rendu une transparence. Parce que sur le plan harmonique, elle prend une vie qu'elle n'avait pas avant. On lui a donné une ponctuation, c'est-à-dire des respirations qu'elle n'avait pas. Et puis, je trouve qu'aujourd'hui, on a besoin de retrouver ce qu'est des Bach. Enfin, avec le nombre d'enfants qu'il a eu, on peut se dire que quand même, il a bien vécu et qu'il aimait la chair dans tous les sens du terme. Donc, c'est dommage d'en faire un personnage qui est purement un mathématicien. Alors que c'est un homme qui est Rubicon, qui vivait très bien. Bon, les quadribés qu'il organisait avec sa famille, les repas, le bonheur, quelque part l'humour aussi. Donc il y a tout ça dans Bach, et je pense qu'il faut le restituer aussi. C'est-à-dire qu'il y a encore une troisième ère où il va falloir mélanger tout cela pour en faire encore une chose plus personnelle, et puis prendre le temps de dire ce qu'on a envie de dire, et se servir de son matériau, qui serait dans les musées, puisqu'il a été pendant des années. Alors ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a inspiré quasiment tous les auteurs après lui, mais qu'il le lisait, qu'il ne le jouait pas. Quand on voit le travail qu'a fait donc Schumann, qu'a fait Mendelssohn, enfin les références de tous les auteurs, Mozart, etc., donc avec ses adagios et fugues, donc on retrouve absolument toutes les influences de tous les gens qui ont succédé à Bach. Et il n'y a personne pour le mettre aux oubliettes. Mais il le lisait, il ne le jouait pas. C'est-à-dire, je vois de plus en plus de jeunes aujourd'hui qui ne font pas une dichotomie entre composition et jeu d'interprète. C'est-à-dire que quand on voit les Lucas de Barque et autres, bon, voilà, aujourd'hui, une génération de jeunes musiciens, compositeurs, et je trouve ça merveilleux. On va retrouver l'essence véritable de la musique, celle qui est vécue, qui est créée et qui est fraîche. Thank you.
Lucas Debargue jouant Scarlatti. C'est ainsi que se referme le 4e épisode des Grands Entretiens avec Jean-Jacques Cantoroff. Réalisation Lionel Quentin, prise de son Yves Lehorse, mixage Olivier Dupré, attaché de production Marie-Christine Ferdinand. Suite et fin de ce portrait demain à la même heure. Les Grands Entretiens sont disponibles en podcast sur francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.